corporal.
Vous écoutez La Croche-Oreille.
Mais il la rejeta. Mais il la rejeta. Mais il la rejeta.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission qui se passionne pour les arts sonores et les musiques merveilleuses, certes, mais aussi pour les artistes et les artisans qui animent ce milieu d'une grande intensité. J'accueille ce soir l'un des plus actifs animateurs du monde sonore, un artiste aguerri, promeneur, écoutant, un découvreur de paysages sonores, médiateur de Louis, je nomme Gilles Malatré. Depuis une cinquantaine d'années, Gilles Malatré capte des sons, arpente les territoires sonores des villes, des campagnes, des friches de toutes sortes pour sensibiliser nos oreilles à la richesse sonore qui nous entoure. Il multiplie et partage depuis de nombreuses années des expériences d'écoute, il cogite des parcours pour l'oreille, met en scène des installations et des points d'écoute. Gilles Malatré est un grand passionné, un musicien et créateur sonore qui cherche à transmettre un savoir qui se fait assez rare maintenant à propos de nos environnements sonores. Pédagogue au sens premier du terme, au sens où il n'hésite pas à marcher avec les gens dans le paysage, Gilles Malatré organise des rencontres, des ateliers de création, de formation et des conférences autour de la création sonore environnementale, des paysages et territoires sonores. J'ai eu la chance de rejoindre Gilles Malatré tout récemment pour échanger avec lui sur cette passion qui l'anime, sur cet état des lieux et de la matière sonore. Alors sans plus tarder, parole à Gilles Malatré. Oui, exactement. Gilles, bienvenue à l'émission. Grand plaisir de t'accueillir ce soir. Dis-moi, ça fait tout de même une cinquantaine d'années que tu animes le monde des arts sonores, notamment. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage de cette passion, de cet intérêt pour la chose sonore au sens très, très large du terme?
Au départ, moi, j'avais une formation de technicien paysagiste, donc jardin. Et puis aussi une formation de musicien. Donc voilà, j'ai fait des études de saxophone et puis d'autres choses en musique. Et au milieu des années 80, j'ai rencontré une association qui s'appelle Assirène, et qui était à l'époque créée et puis, on va dire, animée par Élie Tête, qui est malheureusement décédé depuis. Et cette association travaillait sur la notion de paysage sonore, d'environnement sonore. Donc il y avait des architectes, des urbanistes, des designers, des musiciens. Et là, je me suis dit, ben voilà, la place, elle est là. C'est là où la jonction, elle est là entre le paysage et puis le son. Et donc j'ai travaillé pendant pas mal d'années avec eux. Voilà, on en parlait encore tout à l'heure avec Magali Babin, qui travaille aussi dans ces secteurs-là. Et ça a été le déclic, c'est ça en fait.
Tu avais déjà un intérêt à cette époque-là pour la musique, un intérêt aussi pour la création en tant que telle?
Alors voilà, j'ai fait d'autres rencontres, entre autres à l'époque de ce qu'on appelait les radios libres en France, hein, dans les années 80. Et là, je m'étais engagé assez fortement dans la radio, d'une petite radio, d'une petite ville. Donc ça a été aussi un catalyseur de bidouiller du son, de le monter à l'époque avec des magnétophones à bande. Enfin bon, c'était toute une aventure. Et voilà, ça a été comme ça. C'est aussi l'autre déclic qui m'a fait rencontrer pas mal de gens après qui faisaient de la création radiophonique. Parce que voilà, il y a eu tout un courant qui s'est développé progressivement et qui se développe encore. Ben, normalement, aujourd'hui, on est à la web radio, la radio numérique. Et la radio a joué un rôle très, très important aussi, et joue encore un rôle important.
Gilles, Desarsenans, c'est un peu ta marque de commerce sur le plan de la création, de la diffusion, de la sensibilisation aux Arseneurs. Quelle est la philosophie qui t'anime à travers toutes ces actions? Comment on pourrait te définir? Ce serait quoi, disons, l'identité artistique de Gilles Malatré, dans le monde des arts sonores?
Ben en fait, il a plusieurs casquettes. Alors, ça dépend celle que je prends. Si c'est celle de quelqu'un qui a une oreille tendue vers la création sonore au sens très large, ou si c'est plutôt mon activité personnelle qui est vraiment centrée sur le paysage, sur la notion de paysage sonore. Et c'est peut-être que je me sens définirais plus là-dessus. Hein. J'ai repris souvent un terme en citant son auteur, qui est Michel Chion, de Promeneur écoutant, qui je trouve me va assez bien. Parfois, je parle de paysagiste sonore aussi. Voilà, c'est entre ces deux, de quelqu'un qui arpente le paysage pour l'écouter et puis pour le partager aussi, parce que la notion de partage et de relationnel est ô combien importante.
C'est vraiment une notion qui est au centre de toute ta démarche à l'égard de l'écoute, à l'égard de cette sensibilité aux environnements sonores du quotidien, n'est-ce pas?
Ouais, c'est-à-dire que si je suis le seul écoutant, ben le paysage sera très restreint. Donc voilà, j'emprunte volontiers à Nicolas Bouriot son concept d'art relationnel ou d'esthétique relationnelle, qui fait qu'on peut faire de la création sonore à partir de l'environnement, ce que je fais aussi. Mais l'important, c'est le faire avec et le vivre sur le terrain, en fait. D'où le soundwalk ou les pas, les parcours audiosensibles qui voilà, c'est...
ces activités de marche sonore que tu mènes, comment tu abordes ça avec les participants, le public? Comment procèdes-tu pour entrer en matière auprès des gens que tu accueilles, que tu inities à cette activité?
Alors, il y a presque autant de façons de faire que de paysages, ouvrir de public. Mais là encore, voilà, j'ai fait deux rencontres. Alors, cette fois-ci à distance, qui m'ont donné plein de pistes. La première, c'est évidemment Murray Schafer, qui pratiquait la balade. On ne peut pas employer l'imparfait puisqu'il vit encore, mais qui a développé tout un travail pédagogique qui m'a beaucoup inspiré. Il a beaucoup inspiré d'ailleurs les gens qui travaillent sur le paysage sonore globalement aujourd'hui. Et la deuxième, c'est Max Neuhaus, qui, avec Selixon, qui avait plus une approche performative, plus, on va dire, artistique dans le sens esthétique du terme. Et donc, moi, j'ai beaucoup emprunté, je ne m'en cache pas, en fait, j'ai emprunté, je me suis beaucoup inspiré de leur démarche. Et je mêle très souvent un côté franchement écologique, parce que voilà, c'est une militance qu'il faut avoir, je pense, de plus en plus. Et le son fait partie des choses fragiles, des choses en danger, et des marqueurs sonores de ce qui disparaît, de ce qui. Entre la surenchère dans des milieux urbains et la paupérisation dans des milieux dits naturels. Voilà. Et donc, c'est entre cette approche écologique et puis l'approche plus, on va dire, performative de Max Neuhaus, où là, en fonction du lieu, y a des postures d'écoute, des postures physiques, des postures mentales, des objets que je trafique de temps en temps, des lieux improbables, que ce soit des parkings souterrains ou des choses désaffectées, de montrer un peu l'envers du décor. Donc il y a toujours cette approche. Puis il y a toujours le côté qui est important, c'est le repérage, pour savoir un peu ce qu'on va y entendre, même si il y a toujours l'incertitude du son, qui est éminemment capricieux. Si on fait une visite archéologique, le bâtiment, il a des chances de rester. Mais le son, hormis les ambiances acoustiques, c'est une autre paire de manches. Donc il y a ce repérage qui est très souvent fait collectivement aussi d'ailleurs avec des gens qui connaissent le site parce que c'est intéressant de les impliquer. Et puis après il y a le côté, alors ça c'est mon côté un peu saxophoniste, jazzman, il y a le côté improvisation. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer, on va modifier on va adapter la promenade, on va s'arrêter là où on n'avait pas prévu, on va... mixer en marchant d'une source à l'autre parce qu'il y aura deux musiciens dans la rue, on va s'asseoir sur un banc. Donc il y a tout ce côté qui est en fonction des aléas du moment.
Dis-moi, c'est une grande question. Tu fréquentes cet univers depuis tant d'années. Comment vois-tu le cheminement, l'évolution, les transformations qui touchent les arts sonores au cours des 20 dernières années, par exemple?
Alors, si on prend les arts sonores globalement, ben, il y a beaucoup de choses qui ont forcément impacté les pratiques. Ben, déjà, les technologies, ça c'est évident. Moi, j'ai commencé à monter sur des magnétophones à bande. Et c'est là où, quand je vois des étudiants, je me dis que bon, ils sont à fond dans le numérique et donc toute cette et puis cette miniaturisation qui fait que maintenant on a un studio dans le sac à dos et qu'avant il fallait une camionnette pour transporter des amplis et des micros. Bon, ça c'est déjà indéniable. Hein, enfin, l'arrivée d'Internet, le travail à distance, tout ça qui a fait beaucoup bouger les choses. Des prises de conscience également. Il y a des prises de conscience qui sont politiques, hein, y compris dans l'art sonore. Voilà, moi je vois maintenant des gens qui font du théâtre ou qui utilisent le son, qui le font différemment en fonction des politiques un peu tendues qu'on a. Bon, je ne vais pas rentrer dans un discours politique, mais quand même, on y est. Des préoccupations écologiques qui impulsent de plus en plus la production aussi. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu, je dirais, une préoccupation écologique parce que j'ai été j'ai réfléchi à ça assez tôt vis-à-vis de mes études sur le paysage, mais maintenant il y a quand même une urgence encore plus grande à l'avoir. Donc voilà, et puis également une place du son qui est devenue un art à part entière, alors qu'avant avant il y avait la musique, la grande musique, et puis il y avait quelques post-rockers qui faisaient des expérimentations plus ou moins barrées dans leur coin. Et ces dernières années, bon, les écoles d'art qui voulaient pas entendre parler de son il y a une vingtaine d'années, maintenant certaines ont de vrais laboratoires sonores. Donc voilà, il y a des arts sonores qui se sont installés un petit peu dans l'institution, pour le meilleur et pour le pire parfois. Et avec une reconnaissance. Voilà, le sound art est plus seulement le design sonore, mais c'est vraiment, ça fricote avec de l'installation, ça fricote avec de la performance, avec des arts visuels, donc voilà, ça a beaucoup bougé quand même. Il y a beaucoup de festivals, je m'amuse. J'essaye de recenser tous les festivals un peu partout qui sont axés sur la création sonore, et il y en a quand même pas mal dans le monde entier, quoi.
Le lapin fauteuil est complètement perché et loue ses services à qui est fatigué. Il fait que de dormir et ça, il s'appelle lapin fauteuil et il est fou et il pète 4 fois par jour. Serpent imaginaire. Enfin, le serpent fille, c'est un serpent.
On note que la méduse blanche se nourrit de crevettes. Alors, on se met devant ton projet. Alors, on regarde. Alors, on
Ben voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste et médiateur sonore Gilles Malatré. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promotionnel.
CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille.
Vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est la Croche-Oreille qui vous accompagne jusqu'à 22h. Comme à l'habitude, vous trouverez le titre des pièces entendues ce soir ainsi que la plupart des émissions diffusées jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors voilà, je m'entretiens ce soir avec Gilles Malatré, un créateur sonore qui développe depuis plusieurs années maintenant, en Europe notamment, un réseau d'intérêt très vaste pour les paysages sonores, l'écoute de nos environnements et les marches sonores notamment. Gilles réunit des communautés autour de territoires sonores qui sont comme des oasis, soit une forme de réponse acoustiquement agréable à la surenchère du bruit ambiant stressant, dit-il parfois. Il s'agit, raconte-t-il, de retrouver des poches de tranquillité, des microcosmes sereins, des espaces apaisés, apaisants, esthétiquement beaux sur le plan sonore. Je propose pour cela une déambulation urbaine dans des lieux parfois surprenants, amènes, décalés, en rupture avec la ville, survoltée, dit-il. Je referme les guillemets. Fervent d'une pédagogie participative, Gilles Malatré a construit au fil du temps une des plus grandes et des plus intéressantes sources d'informations sur les arts sonores, un magazine sur le web qui s'intitule « Des arts sonnants », un magazine dans lequel on peut suivre une multitude d'activités et d'événements sonores qui ont cours aux quatre coins de la planète. C'est une documentation franchement qui est fabuleuse, dont je vous fournirai les liens sur le site de La Croche-Oreille. Alors voilà qui est dit. On enchaîne la suite de cette conversation fort sympathique avec Gilles Malatré autour de ses projets de création et de sensibilisation artistique autour des univers sonores.
Allez, bravo!
Gilles Malatré, je m'en voudrais ce soir qu'on laisse de côté tes projets de création au profit de tout ce travail d'animation du milieu. Tu as réalisé de nombreux projets d'expérimentation sonore, des projets de création très riches et diversifiés, dont ce projet récent intitulé « Des sons à ta fenêtre ». Comment ça émerge, ce projet de captation sonore?
Alors, ce projet, il est né de façon très circonstanciée, puisque c'est le Covid qui nous a pris, ou la Covid, on le dit, je crois, mais enfin bon, ce sale virus qui nous a pris tous à dépourvu et qui nous a enfermés de façon un peu stressante. Et moi qui faisais des promenades sonores, je me suis dit, bon, là, on ne peut pas trop déprimer, il faut quand même garder une oreille un peu sur le monde et avec les autres, en tout cas. Et donc, j'ai lancé un petit peu à titre expérimental, je dirais, un ballon d'essai un peu. Voilà, si vous avez envie d'enregistrer de votre fenêtre, on va centraliser tout ça, puis on peut en parler, puis petit à petit, voilà, j'ai mis ça en ligne. Il y a eu des réponses, il y a eu plus de 250 réponses un peu du monde entier, donc ça m'a un peu moi-même surpris. Puis on a engagé des conversations aussi avec certains qui m'envoyaient des sons tous les jours, quasiment une sorte de rituel. Voilà, moi j'ai pris mon rituel de ce qu'on appelait les 20 heures aux fenêtres, où les Français applaudissaient les soignants ou huaient les politiques, ça dépend, ou les deux en même temps. Donc voilà, la matière qui s'est accumulée de façon assez riche, avec il y avait vraiment beaucoup de sensibilité dans ce que les gens voyaient, puis là où ils étaient. Et de fait, comme je travaille beaucoup avec un centre d'art numérique et sonore de Belgique, qui s'appelle Transculture, pour ne pas le nommer, et ils m'ont dit, ben voilà, on va en faire un projet, puis on va développer, on va le mettre en ligne, on va développer un appel à composition qui est en train de se finaliser. Donc voilà, ça s'est structuré après de façon plus formelle. Et c'est d'ailleurs toujours en chantier, parce que tous les sons sont quasiment en ligne, mais au niveau des compositions sonores, on imagine une restitution ou un pressage de disque ou une installation pour notre semaine du son à nous.
Gilles, je t'interromps, on va en écouter quelques extraits sonores de ce projet intitulé « Des sons à ta fenêtre ». Alors on écoute ça. Il reste que parmi toute ta production, il y a beaucoup de travaux inspirés du field recording, comme on a pu l'entendre, mais aussi des travaux de création dont la portée me semble proche du documentaire sonore, de l'investigation. Je pense entre autres à ce projet intitulé « Est-ce que tu me vois ?» J'aimerais que tu nous parles des circonstances qui t'ont mené à ce type de projet qui engage notamment un dialogue avec l'autre.
Alors, c'est toujours mon côté relationnel où je m'ennuie beaucoup si je ne parle pas avec des gens. Et voilà, il y a eu plusieurs projets comme ça. Il y en a eu un autre aussi qui s'appelait Et avec ta ville, comment tu t'entends. Écrit en plusieurs phases, c'est-à-dire parfois c'est des promenades qu'on fait en duo et pendant 2 heures on va parler et je vais enregistrer. Alors là, sans montage, c'est juste une promenade vécue en différé avec des conversations à bâton rompu, souvent sur le son, mais sur ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc il y a toujours cette idée de converser. Le principe des bancs d'écoute aussi, c'est que quand j'écoute sur un banc, il y a souvent des gens qui viennent me parler et ils créent une forme de rituel aussi comme ça avec des habitués. Donc c'est toujours pareil. Et là dernièrement, je travaille sur un projet avec des étudiants et des patients d'un gros hôpital psychiatrique lyonnais. Et donc la parole a énormément d'importance parce que les publics, enfin moi je parle de patients, mais on préfère parler dans l'institution de public, ont envie de parler des lieux, ont envie de parler de ce qu'ils y vivent, de ce qu'ils y ont vécu. Et on retombe d'ailleurs sur malheureusement des idées d'enfermement qui, entre le Covid et la condition psychiatrique, sont parfois un peu compliquées. Voilà, à chaque fois, même si on fait une promenade sonore de 2 heures en silence, ce que je fais souvent, il y a toujours de la parole avant, il y a toujours de la parole après qui se libère, d'autant plus qu'elle a été un peu réduite par ces 2 heures de silence. Et pour moi, c'est très important. Il y a toujours le texte souvent qui rapporte en plus la couche de non-dit parfois.
Est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu me vois ? Je sais que tu vois mes bourrelets et ma cellulite. Est-ce que tu me vois, moi ? Est-ce que tu me vois, la personne ? Personnalité, l'esprit, les rêves, les sentiments, l'ego, l'amour de soi, la joie, le bonheur aussi. Les larmes et le chagrin, la douleur et la tristesse, la conscience et l'intelligence, la réflexion et la colère.
C'était souvent les filles noires à la peau foncée qui prenaient de l'un du style tes charbons, mes regards, ta peau sale, tes crades, non, vous êtes des monstres.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Est-ce que tu me vois?
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 Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois?
Gilles, il y a sans doute quelque chose d'un peu thérapeutique dans ta démarche d'amener par le travail, de l'écoute, une meilleure capacité de vivre ensemble, d'être attentif à ce qui nous entoure. Qu'est-ce que t'en dis?
Alors, complètement. Alors, par contre, je n'y vais pas jusqu'au thérapeutique parce qu'il y a de vrais musicothérapeutes qui est une, c'est un métier, c'est un... Donc moi, je ne suis pas musicothérapeute et je pense que ce serait dangereux si je prétendais l'être. Mais par contre, essayer de créer du mieux vivre, oui, c'est certain, de libérer la parole, c'est aussi chercher de mieux vivre. Moi, je parle très souvent d'aménité paysagère ou d'aménité sonore, c'est-à-dire que à une époque où on nous parle beaucoup de bruit et de nuisance, et c'est vrai qu'il y en a, moi, je préfère prendre l'autre côté de la lorgnette et dire il y a des belles choses. On va aller chercher et puis on va voir comment on peut s'en inspirer pour contrer les mauvaises choses ou les erreurs d'urbanisme qu'on a fait ou c'est mon côté alors je suis pas spécialement un grand optimiste mais j'essaie quand même d'aller chercher justement le mieux vivre pour ne pas tomber dans le mur du son, du bruit systématique parce que là on clôt le discours et on est que sur du négatif.
Gilles, dis-moi, ton approche sensible auprès des gens, ce qu'on pourrait appeler une pédagogie participative, ça demeure tout de même au centre de ta démarche, n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est. Je suis assez curieux de la pédagogie. J'en ai fait beaucoup en tant que musicien, de voir comment on pouvait apprendre un instrument peut-être autrement. À l'époque, on appelait ça des méthodes actives. Enfin, bon, il y avait beaucoup de développement et je me pose toujours la question de savoir comment on fait passer la notion d'écoute via le paysage maintenant, via la composition, on va dire électroacoustique ou acousmatique. Et puis, ben, cette notion de dire que ce partage, alors pas forcément que de connaissances, mais ce partage d'expérience aussi, peut-être plus partage d'expérience que de connaissances, parce que moi j'en apprends autant que les apprenants et les appreneurs s'enrichissent. Mais ça reste, je pense, dans mon idée de sociabilité. Et la pédagogie fait partie d'une forme de sociabilité. Et voilà, si on veut que des jeunes architectes ou des jeunes urbanistes, parce que je travaille beaucoup d'aménageurs quand même ces temps-ci, se soucient de la qualité sonore, on a intérêt à y aller, quoi.
Pour conclure notre conversation ce soir, j'aimerais ça, Gilles, t'entendre sur tes projets à venir. J'imagine qu'il y a plein de perspectives sonores dans tes cartons, sur ta table de travail.
Oui, alors ben, en fait, il y a plein de projets qui sont effectivement sur la table et qui attendent de prendre l'air parce qu'ils sont un peu confinés aussi. Mais disons que ces dernières années, il y a eu... Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il y a eu de plus en plus de projets plutôt universitaires qui se sont mis en place. Donc là, il y a des idées de travailler le son par des diverses approches avec diverses universités, par exemple concernant l'habitat, avec des géographes anarchistes, dans le vrai sens du terme, pas des poseurs de bombes, de travailler le son par rapport à l'habitat, avec des services de santé, comme c'est des services très sollicités, de travailler le son plutôt par rapport à la santé, mais sans... En disant plutôt comment on peut faire sortir dehors pour écouter j'en reviens, c'est pas du son qui soigne. Enfin, pour moi, le son soigne, mais c'est pas moi qui vais me faire le soigner, en tout cas. Donc, il y a tous ces projets avec pas mal de workshops, donc, parce que j'adore travailler avec des étudiants. Et puis, après, il y a d'autres projets. Des festivals qui ont été annulés, reportés, ajournés, où là on est beaucoup sur de la balade sonore, des projets de territoire aussi avec des PNR sur le. Enfin voilà, c'est pas les projets ne manquent pas, pour l'instant c'est l'espace pour les réaliser.
Gilles Malatré, vous faites un travail remarquable de sensibilisation sonore, un travail de pionnier. Beau travail de création. Grand merci de m'avoir accueilli chez toi aujourd'hui pour échanger sur cette belle passion qui t'anime. Grand merci.
Bien, merci beaucoup aussi de m'avoir donné un petit temps de parole. C'est toujours agréable de discuter.
Ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir. Grand merci, mille fois merci à Gilles Malatré de m'avoir accordé cette rencontre et de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres sonores. Vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille. Vous trouverez ça facilement, ainsi que les références à son magazine intitulé « Des arts sonores ». En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.